Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons demeurer dans cette attitude de recueillement, demeurer dans la pensée pascale. On peut arrêter les exclateurs. Oh, alléluia. Il est ressuscité et nos vies sont des preuves vivantes, tangibles de ce que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il vit éternellement. Seigneur, avant de pouvoir nous asseoir à tes pieds, nous voulons te dire merci pour ces moments merveilleux que nous venons, Seigneur, de passer en ta présence. Ces moments qui nous ont permis, ô Seigneur, de faire monter vers toi notre louange, notre adoration. Des moments qui nous ont permis de t'exprimer toute notre reconnaissance. Seigneur, par nos prières, par nos chants, reconnaissance pour ta victoire sur la mort, mais également ta victoire sur celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir Satan lui-même. Ta parole déclare qu'à la croix, tu as publiquement livré en spectacle toutes les puissances démoniaques. À la croix, tu as brisé, Seigneur, ô Dieu, Satan, et tu as réduit à néant son royaume. Tu es sorti vainqueur du tombeau, vainqueur de la mort, vainqueur des ténèbres. Oh, alléluia. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette victoire. Et grâce te soit rendue de ce que en toi nous sommes plus que vainqueurs. Notre prière est que tu nous aides à demeurer, Seigneur, dans la puissance de ta résurrection, à avancer dans notre vie de pèlerin ici-bas, en ayant nos regards fixés sur toi, en ayant, Seigneur, tout notre être tourné vers toi et vers toi seul, toi l'initiateur de la foi, mais également celui qui l'amène à la perfection. Merci de nous parler maintenant, Seigneur, de nourrir notre cœur avec ce qui vient de ta part. Merci, ô Dieu, de manifester solennellement ta pensée et que cette pensée puisse trouver un cœur bien disposé dans chacun de nous. Oui, bénis chacun de nous et bénis aussi, Seigneur, l'outil dont tu vas te servir pour édifier chacun de nous. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, très bon appétit, Pascal. Oui, la parole est une véritable nourriture pour nos âmes. Et quand on a la grâce de la lire, la grâce de l'étudier, la grâce de la méditer, eh bien, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, car pendant que nous méditons cette parole, il y en a d'autres, hélas, qui, eux, méditent autre chose. Voilà, c'est Pâques, c'est pas un scoop, nous le savons, nous venons de le célébrer et tout ça. Et donc à cette occasion, en ces dimanches, hein, Pascal, je voudrais attirer notre attention sur un thème évidemment en rapport avec Pâques, en rapport avec ces dimanches spéciales. Et ce thème est Jésus-Christ, virgule, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Jésus, nous le savons, et nous bénissons Dieu pour tout cela. Le but, ce n'est pas simplement de vous donner des informations. Beaucoup d'entre nous savent, beaucoup d'entre nous lisent, beaucoup d'entre nous sont familiers avec la parole de Dieu. Mais le but ici, c'est d'amener chacun de nous à aller à la rencontre du ressuscité du troisième jour. Alléluia. Aller à sa rencontre, eh bien, chacun de nous, nous qui sommes déjà en Christ, et pour nous, c'est une occasion de le louer, de l'adorer, une occasion de le célébrer, une occasion de lui exprimer toute notre reconnaissance pour sa victoire singulière sur la mort, sur les puissances des ténèbres, sur Satan lui-même. Mais c'est aussi une occasion pour tous ceux qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, qui n'ont jamais fait d'expérience réelle avec le ressuscité du troisième jour, eh bien de le rencontrer. Alléluia. Car il ne s'agit pas simplement de se réjouir en ce dimanche pascal, de se dire Jésus est ressuscité, si on n'a pas encore eu l'occasion de le recevoir personnellement dans sa vie. C'est donc une invitation à la rencontre de ce ressuscité, de ce Dieu qui a réduit à néant la mort, qui a brisé, eh bien, celui qui était derrière la mort, qui en détenait le pouvoir, à savoir Satan. Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous allons lire très rapidement, parce que nous avons un programme fort chargé. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, et nous allons aller à la rencontre de trois disciples qui ont vécu dans un premier temps différemment, ou qui ont réagi différemment, eh bien, aux réalités en rapport avec la résurrection du Christ, à la rencontre de Jean l'apôtre, à la rencontre de Simon-Pierre l'apôtre, mais aussi à la rencontre de cette disciple du Christ, à savoir Marie-Madeleine. Le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche, c'était un jour comme celui-ci, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus avait de l'amitié ou aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Jean l'apôtre, partirent ou sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes, c'est-à-dire le linceul dont le corps du Seigneur avait été enveloppé, qui était là, et le linge ou le suaire qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, je pourrais ajouter, s'il te plaît, où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Les disciples auxquels elle est allée annoncer cette bonne nouvelle, parmi ses disciples, il y avait Pierre et Jean, qui avaient été aussi avec elle au tombeau. La résurrection de Jésus. Voilà une des vérités fondamentales, mes amis, sur laquelle tout disciple de Christ est appelé à s'appuyer. Voilà un des piliers, car il y en a deux par rapport à l'évangile du Christ, piliers sur lesquels repose notre salut, notre délivrance, sur laquelle repose la vie éternelle, à savoir la mort en croix de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, mes amis, notre foi serait vaine. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous aurions peut-être une religion quelconque, mais sans plus. C'est parce qu'il est réellement ressuscité qu'à travers les âges, des hommes et des femmes ont fait cette expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Oui, Jésus est vraiment ressuscité et nous le proclamons haut et fort. Parler de la résurrection de Jésus-Christ, c'est parler du pivot, c'est de la base sur laquelle repose notre foi. C'est parler donc de la clé de voûte de notre foi. C'est parler de l'enseignement fondamental, essentiel, concernant le christianisme. Car la résurrection de Jésus n'est pas une affabulation, n'est pas le résultat d'un délire collectif de quelques disciples, pas du tout. La résurrection, ce n'est pas une imposture théologique, une sorte de brimade intellectuelle qu'on aurait imposée à tous ceux qui se réclament du Christ. La résurrection de Jésus n'est pas une hallucination, une fable faite de toutes pièces, inventée, imaginée par une poignée de chrétiens, par des fanatiques hallucinés, pas du tout. La résurrection de Jésus, mes amis, est un fait établi historiquement. J'ai déjà eu à en parler, mais aussi spirituellement. Alléluia. À travers les âges, nous pouvons voir des traces vivantes qui atteste que Jésus est réellement ressuscité. Depuis sa résurrection, le monde n'est plus le même. Depuis sa résurrection d'entre les morts, eh bien, la porte du ciel ou les portes du ciel sont grandement ouvertes. Et quiconque croit en lui, quiconque s'appuie sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, quiconque le rencontre personnellement, eh bien, prend le chemin qui conduit tout droit vers la félicité et la gloire éternelle. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Revenons donc à notre texte. C'est l'histoire de quelques disciples, à savoir Simon-Pierre et Jean, tous deux apôtres du Christ, et de cette femme qui avait eu la grâce de rencontrer le Seigneur à un tournant décisif de sa vie. Elle avait expérimenté la délivrance, elle avait expérimenté, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. Toute sa vie avait été transformée, métamorphosée, transfigurée après avoir rencontré le Seigneur. Alléluia. Et depuis, cette femme s'était mise à suivre Jésus comme tant d'autres. Et puis voilà, pour eux, quelque chose de terrible est arrivé. Jésus a été arrêté injustement. Jésus a été jugé injustement. Ça a été un jugement expéditif. Il a été condamné à mort. Et puis ensuite, pendu sur ce bois infâme de la croix. Il est mort. On a pris son corps, on a mis ça dans le tombeau. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'était la catastrophe. C'était le drame pour ses disciples, pour ceux qui l'avaient suivi. Il était tout pour eux. Ils l'avaient vu à plus d'une fois à l'œuvre. Ils pouvaient se réjouir de compter parmi ceux qui avaient cru en lui. Et puis voilà. Voilà la croix est passée par là. Voilà la crucifixion est passée par là. Voilà la mort est passée par là. Voilà le tombeau dans lequel son corps a été placé avec une pierre posée devant. Tout ça pour que, comme il disait lui-même qu'il allait ressusciter au troisième jour, pour éviter, et ça c'était les chefs juifs, de connivence avec les autorités romaines, eh bien, placer, poster une garde, prendre toutes les précautions, mettre une pierre dure devant l'entrée de sa tombe pour qu'on ne vienne pas chercher son corps et puis dire plus tard qu'il est ressuscité et tout cela. Et là, nous sommes au premier jour, un dimanche comme aujourd'hui. Et ce jour-là, cette femme animée de l'amour pour Grèce, et cette femme pour qui Jésus était tout pour elle, est bien partie. Est partie au tombeau. Il faisait encore noir. Il faisait encore obscur. Et puis quand elle arrive au tombeau, alors que c'était un clair obscur, passez-moi cet oxymore, un clair obscur, elle voit que le tombeau, la pierre qu'on avait placée devant le tombeau avait été enlevée. Pour elle, ça y est. Les gens sont venus, ils ont roulé la pierre, et ils ont pris le corps du Seigneur et l'ont amené je ne sais où. Elle est perplexe, Elle est perturbée, elle est intriguée. Qui a osé faire ça? Elle repart pour aller trouver les apôtres, en particulier Jean et Pierre. Elle leur annonce cette nouvelle, selon laquelle, eh bien, le tombeau du Seigneur, la pierre avait été déplacée. C'est ainsi que Jean et Pierre, après avoir entendu ce message, eh bien, vont tout de suite se lever pour aller au cimetière. Voyez-vous, aller à la tombe du Seigneur. Et cette femme les suit. Voilà donc trois personnes. J'aimerais vous inviter à rejoindre ces trois personnes là. Là où le corps du Christ avait été déposé dans ce tombeau, dans ce jardin-là. J'arrive le premier. Ils sont partis ensemble, mais ils couraient tellement vite, comme certains l'ont dit, ils devaient être plus jeunes que Pierre. Pierre, peut-être sous le poids de l'âge, et suivait péniblement. Mais enfin, tous les deux arrivent, mais Jean arrive en premier. Il se rend compte qu'effectivement la pierre avait été roulée, que l'entrée du tombeau était vide, était ouverte. Et puis deuxièmement, il voit, il n'entre pas, hein, puisqu'il fait maintenant jour. Donc on pouvait voir l'intérieur du tombeau. Il voit les bandelettes, le linceul, posé là, pourtant il n'entre pas. Il voit des détails, mais qui vont l'intriguer, qui l'intriguent déjà à cet instant-là. Voilà. Et puis Pierre arrive, Simon, qui le suivait, il arrive à son tour. Quand il arrive, lui, il ne se contente pas de demander à Jean, mais qu'est-ce que tu as vu? Il entre dans le tombeau du Christ. Alléluia. Il entre dans le tombeau, il regarde attentivement, il contemple, c'est le verbe utilisé en grec, et que voit-il? Il voit les bandelettes qui sont posées là. Voyez-vous, premièrement. Et puis il voit le linge qu'on avait placé sur la tête du Seigneur, donc le suaire, non pas posé avec les bandelettes, avec le linceul, non, pas du tout, mais roulé à part dans un autre endroit. Donc il y a là quelque chose qui intrigue Pierre. Donc quelque chose d'ordonné s'est passé. Les choses ne se sont pas passées dans la précipitation. Tout est bien en ordre. C'est alors que Jean, à son tour, voyant que Pierre, eh bien, continuait à regarder, à admirer tous ces éléments, alors qu'il était perplexe, Jean va entrer. Et là, quand il entre, il voit, lui aussi, il voit les bandelettes, le linceul, le tissu dans lequel le corps du Seigneur avait été enroulé, et puis voit le suaire, dont le linge qu'on avait posé sur sa tête, bien plié et bien placé dans un endroit. Et nous l'avons lu, après avoir vu cela, la Bible nous dit, il crut, il vit et il voit et il croit. Ah, que voit-il? Il voit des éléments qui l'intriguent. Il voit les bandelettes, et c'est effectivement, c'est dans ces bandelettes que le corps du Seigneur avait été placé. Il voit le suaire, bien roulé, bien rangé. Il dit, mais c'est bien celui-là. Comment expliquer? Comment expliquer tout cela? Et la Bible nous dit, nous l'avons lu au verset 8, il vit et il crut. Mais que croit-il? Ah, voilà la grande question. Que croit-il? Évidemment, il croit à la résurrection, parce que le tombeau est vide. L'acuité, ou plutôt la vacuité du tombeau, le fait que le tombeau soit vide, l'absence du corps, le tombeau ouvert, mais pour tous, pour lui, c'est que le Christ est ressuscité. Gloire au Seigneur, alléluia. Il voit et il croit. Mais en quoi croit-il? La foi, vous le savez, croire, c'est avoir foi soit en quelque chose, soit en quelqu'un. Maintenant, le fait de croire en quelque chose pour Jean était-il suffisant? Le simple fait que le tombeau soit vide était-il une preuve suffisante pour que le Seigneur ait vraiment ressuscité? Le fait que l'ordre ait été dans ce tombeau-là était-il amplement suffisant pour dire haut et fort que Jésus était vraiment ressuscité? Oui. Toute cette scène, lorsque nous l'observons ensemble, toute cette scène dégage une atmosphère de résurrection. Alléluia. Toute cette scène sans la résurrection. Le Seigneur devait ressusciter. Autrement, où serait passé son corps, si ce n'est qu'il est ressuscité? Son corps aurait-il été emporté par un voleur? Mais pour cela, il eût fallu que ce voleur d'abord, neutralise ceux qui avaient été postés devant le tombeau pour le garder? Oui ou non? Et puis ensuite, il eût fallu qu'il ait assez de force pour rouler la pierre. Et donc, nous voyons que l'hypothèse d'un voleur est à exclure. Vous voyez, peu probable que quelqu'un soit venu s'attaquer à ceux qu'on avait placés, aux soldats qu'on avait placés devant le tombeau, et puis le neutraliser, et puis ensuite déplacer la pierre. Était-ce l'œuvre des pilleurs de tombes? À l'époque, ça existait. Parce qu'à l'époque, on enterrait les gens avec des trésors. Voyez-vous? Et il y avait des voleurs, ceux qu'on appelait, et qu'on appelle encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, les pilleurs de tombes. En espagnol, on les appelle les aguaqueros. C'est-à-dire, ce sont des gens, même en Égypte, ils vont dans des sites funéraires pour aller chercher des objets d'or, en or, etc. Bref, des trésors. Parce qu'à l'époque, on enterrait les gens, quelquefois, avec leurs biens. Était-il l'œuvre des pilleurs de tombes? Non, l'hypothèse ne tient pas non plus. Parce que dites-moi, s'ils étaient venus chercher quelques trésors en se disant, cet homme était tellement célèbre, cet homme se présentait comme étant le Fils de Dieu, certainement tous ceux qui l'ont suivi, parmi ceux qui l'avaient suivi, il y avait des femmes, des femmes nobles, il y avait des gens qui avaient des moyens, oui ou non. Peut-être qu'ils ont placé ou ils l'ont enterré avec des objets, allons voler ces objets. Eh bien, dites-moi pourquoi ils se seraient donné la peine, après avoir volé tous les objets, emporter le corps. Pour faire quoi avec le corps? Et puis, passer son temps, alors qu'on est venu cambrioler, passer son temps à remettre les choses en place. Cette hypothèse ne tient pas debout, n'est-ce pas? Alors l'apôtre Jean comprend que l'absence du corps et la disposition des bandelettes ainsi que du suaire n'était pas le résultat d'un cambriolage, d'un voleur, d'un pilleur de tombes. Et il prend conscience que Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité des morts. C'est lui qui doit avoir quitté ses bandelettes, qui doit avoir déroulé le linge avec tous les soins possibles, et puis l'enrouler et poser ça quelque part. Donc, celui qui doit avoir déplacé la grosse pierre pour sortir du tombeau. Alléluia. Et donc, il ne pouvait qu'être ressuscité, n'est-ce pas? Ici, une petite parenthèse. La pierre avait été enlevée, non pas pour permettre au Seigneur de sortir. Il pouvait sortir même avec la pierre devant. Alléluia. Parce que plus tard, dans le même récit, la Bible nous dit au soir, alors que les disciples s'étaient barricadés, s'étaient enfermés, il va entrer sans passer par la porte. Oh, alléluia! Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin qu'on déplace la pierre. Si la pierre a été déplacée par lui-même, c'était pour permettre à ses disciples de savoir qu'il n'y a plus rien dans le tombeau. Qu'il n'y a plus rien, qu'il puisse entrer, et se rendre compte qu'il n'y a plus de corps. Et que ce corps n'a pas été volé, cambriolé, par des pilleurs, pas du tout, puisqu'il laisse l'ordre derrière lui. Tout s'est fait de manière magistrale, de manière solennelle, de manière noble. Partout où il passe, il laisse toujours l'ordre. Alléluia. Et quand il vient dans nos vies, il enlève la confusion, il enlève le désordre, il structure notre vie. Et désormais, nous devenons ordonnés. Alléluia. C'est aussi pour que le monde constate que le juif qu'il avait pendu à la croix, que le romain qui avait approuvé ce meurtre, qui de connivence avec les chefs religieux juifs, avait tout fait pour garder son tombeau, pour qu'il y ait personne qui vienne voler le corps et puis aller dire ça et là. Oui, vous voyez, son corps n'est pas là, eh bien il est ressuscité, pour que le monde constate que le tombeau est bien vide. Alléluia. Qu'il est vraiment vide. Mais alors, c'est Jésus, s'il n'est plus là, où est-il? Où est-il? Où le chercher? Faut-il aller de nouveau à Jérusalem, dans les endroits qui sont considérés comme étant des lieux? Il y en a deux, je les ai toutes visités à Jérusalem, considérés comme étant des sites qui avaient abrité sa tombe ou son tombeau. Où faut-il le chercher? Eh bien, le Seigneur n'est plus dans le tombeau, alléluia. Oui, on peut passer là-bas, c'est simplement pour l'histoire, pour la mémoire, c'est dire, vraiment, cette terre, le maître l'a foulé. Il a marché sur la terre d'Israël. Point barre. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Plus de 2000 ans après, malheureusement, il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui placent leur foi dans la scène du tombeau vide. Et les grandes religions, les grandes tendances dans le christianisme, eh bien, se sont partagées la gestion de ces deux sites. Et chacun est convaincu que, voilà, c'est là où Jésus, le tombeau de Jésus était. Et vous voyez des pèlerins du monde entier aller là-bas, certains à genoux, etc. Mais ça fait bien l'affaire des commerçants. Hein. Et puis l'autre site, dans un jardin, où effectivement de là, on peut voir le mont Golgotha, ce rocher avec la forme d'un crâne. Voyez? Alors, par rapport à ce deux sites, ceux qui les gèrent, les uns sont convaincus que c'est avec eux, que c'est là où ils sont, que vraiment le site ayant reçu le corps du Seigneur se trouvait, d'autres en disant non, non, c'est nous, et on a même vu des scènes rocambolesques, des scènes ubuesques autour de ce site-là, de prêtres arméniens, des prêtres orthodoxes, des prêtres catholiques se battre. C'était des images insoutenables. À la tombe de celui qui est le prince de paix, celui qui est venu réconcilier les gens, voilà que ce prêtre-là, tout en sachant que Jésus a été, son corps avait été déposé là, que c'est son tombeau, qu'il est vide et tout ça, cela ne les a pas empêchés de s'empoigner. Quelle tristesse! Mes amis, quel paradoxe, une preuve s'il en fallait que la foi dans le tombeau vide et dans tout le détail que j'appelle périphérique, ce n'est pas ça cette foi qui sauve. Alléluia. Ce n'est pas ça. Revenons très rapidement. Où chercher le Seigneur puisque le tombeau est vide? Eh bien, le Seigneur est dans sa parole. Alléluia. D'ailleurs, le verset 9 nous le dit. Car ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Il est dans sa parole. Si tu veux le rencontrer, tourne-toi vers sa parole. Ce n'est pas en allant à Jérusalem. Tu peux aller là-bas ressentir quelque chose sur le plan religieux sans plus. Il est vivant. Il est dans sa parole. Et il est derrière sa parole. Quand vous acceptez sa parole, vous acceptez l'écriture sainte, alors vous les rencontrez, alléluia. C'est à la lumière, mes amis, à la lumière de la résurrection, que les disciples du Christ pénètrent enfin le sens de l'écriture. Avant ça, avant la résurrection, tout était obscur. Vous voyez, Tout était nébuleux pour eux. Il avait parlé à plus d'une fois qu'il allait mourir et ressusciter, mais sans plus. S'entrant par là et ça sortait de l'autre côté. Et maintenant, quand il meurt, quand on fait descendre son corps, on le place dans un tombeau, pour un, c'est fini. Vous voyez? Et pourtant, il avait dit à plus d'une fois, il est ressuscité. Et à la lumière de la résurrection, qu'ils ont compris qu'effectivement Jésus est vivant. Parce que la même écriture, comme Paul le dira, que Christ est mort pour nos péchés selon l'écriture, il a été enseveli et ressuscité selon l'écriture, eh bien c'est dans et à travers sa parole que nous pouvons le rencontrer. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Rappelez-vous cette scène où, dans Jean 2 où le Seigneur arrive, il s'est mis à chasser tous ces vendeurs qui avaient envahi le temple et qui avaient transformé le temple de Jérusalem en un marché, un vaste marché où chacun s'est livré à toutes sortes d'activités mercantiles, commerciales, etc. Et puis les Juifs prennent la parole et disent au Seigneur, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Tu dis que c'est la maison de ton Père. Mais quel miracle fais-tu? Jésus leur répondit au verset 19 de Jean 2. Détruisez ce sanctuaire. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Voilà. Et tous n'ont pas compris. Voyez-vous? Alors, ils répondent au verset 20. Les Juifs disent, ils lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Et le verset 21 nous dit, mais il parlait du temple de son corps. Et le verset 22, quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. C'est donc le Seigneur est dans sa parole. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Donc, il y a tant d'autres passages, mais nous n'avons pas le temps. À la lumière de la résurrection que nous comprenons les Écritures, ceux qui ont marché avec lui quand il est venu sur cette terre, ceux qui ont mangé avec lui, ceux qui ont tout abandonné pour le suivre, et aussi ont eu besoin, mes amis, de sa résurrection pour enfin réaliser que tout ce que la parole de Dieu disait à propos du Christ était vrai. Revenons très vite à Jean, notre premier disciple, Jean. Jean voit et croit. Il voit quoi? La pierre déplacée, la porte du tombeau ouverte, l'entrée. Il voit que les bandelettes sont bien disposées. Il voit que le suaire est bien roulé, placé dans un autre endroit. Eh bien, cette croyance, cette foi, suscité par l'expérience du tombeau vide, suscité par les bandelettes bien disposées, suscité par les suaires bien placées, même si cette expérience, mes amis, confirme l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter les morts, eh bien cette foi suscitée par cette expérience ne pouvait pas soutenir, ne pouvait pas amener ses disciples à expérimenter Dieu dans leur vie. Ils sont repartis en sachant que le tombeau est vide, que la pierre a été enlevée, qu'il y avait un ordre tel que ça ne pouvait être que le Seigneur lui-même par rapport à tout ça. Mais cette croyance-là, dans les éléments périphériques, mes amis, de la résurrection du Christ, n'ont pas suffi pour que Jean et Pierre se disent réellement qu'il est ressuscité. La preuve, c'est qu'ils sont partis. Ils ont trouvé les autres disciples. Ils leur ont dit ce qu'ils ont vu. Non seulement ils avaient cru à ce que la femme avait dit, mais eux aussi ils ont vu. Ils se sont adressés aux autres, effectivement. Nous avons trouvé le tombeau. La pierre était déplacée. Il y avait un tel ordre que ça ne pouvait pas être le résultat d'un cambriolage ou d'un pilleur de tombe. Donc il doit être, mais avec une telle foi, les voilà barricadés par peur de Juifs. Mes amis, cette foi-là que va avoir Pierre et Jean, simplement en se fondant sur les éléments physiques, était insuffisante. Il fallait une rencontre personnelle avec les ressuscités. Paul dira plus tard, mon but c'est de le connaître et d'expérimenter sa puissante résurrection. Philippiens 2, n'est-ce pas? Et c'est en cela que Marie intervient dans l'histoire. C'est là que Marie va expérimenter la vraie dimension de la résurrection de Jésus. Elle va aller au-delà de la tombe. Elle va aller au-delà du tombeau vide. Elle va rencontrer le Seigneur, alléluia, qui va l'appeler par son nom Marie. Voilà la foi qui nous sauve. Elle se rend au tombeau comme tout le monde. Les deux autres s'étaient rendus au tombeau. Il faisait encore noir, nous l'avons lu. Elle voit, comme les autres, que le tombeau, que la pierre avait été enlevée. Et puis elle est repartie informer Pierre et Jean. Et puis elle est revenue avec eux. Elle s'est mettée à l'écart, elle s'est mise à l'écart pendant que les deux, perplexes, par rapport à tout ce qu'ils ont vu, ils venaient de voir dans la tombe. Et la voilà, elle, derrière, en pleurant. Elle pleure pourquoi? Parce que pour elle, on a volé le corps de son Seigneur. Elle pleure parce qu'elle aurait tant aimé retrouver ce corps et l'embaumer. Mais voilà que le tombeau est vide, voilà que ce corps n'est plus là. Elle pleure et à un moment, son visage complètement couvert de larmes, le chagrin voilant ce regard, elle se penche quand même. Elle se décide, elle aussi, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Que voit-elle à l'intérieur? Eh bien, elle va voir ce que les deux disciples n'ont pas vu. La détermination, la persévérance. Que voit-elle? Elle voit, nous l'avons lu, deux anges assis à l'endroit où le corps du Seigneur avait été placé. L'un à ses pieds, l'autre à la tête. Elle regarde, elle est perplexe. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors les anges lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répond, parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où on l'a mis. Pendant qu'elle dit tout cela, pendant qu'elle parle, quelque chose le fait retourner au alléluia. Quand elle regarde, en se retournant, elle voit Jésus. Mais, comme son visage est complètement, ou ses yeux obnubilés par le chagrin, par la tristesse, par les larmes, elle ne voit pas comme il faut, eh bien, elle le confond avec le jardinier. Le Seigneur lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Comme avec les anges, n'est-ce pas? Les anges lui ont dit la même chose. Femme, pourquoi? Voilà. Mais ils n'ont pas trouvé la solution. Aucun ange. Jésus lui pose la même question, ce qui est normal. Pourquoi pleures-tu, femme? Et il ajoute, qui cherches-tu? Ah! Qui cherches-tu? Quand on pose cette question, c'est que l'objet de la question est une personne. Mais quand on pose la question, que cherchais-tu? L'objet, ce sont des choses. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Qui cherchais-tu? Alors, elle, croyant avoir affaire au gardien du jardin, lui dit, Seigneur, si c'est toi, toi le jardinier, qui a déplacé ce corps, dis-le-moi où tu as mis ce corps, et j'irai le prendre. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le ressuscité du troisième jour l'appelle par son nom, Marie. Là, il se retourne cette fois-ci. Là, les écailles tombent de ses yeux. Là, aucune larme ne peut l'empêcher de réaliser qu'il est là en chair, qu'il est là en os, qu'il est là en esprit, le ressuscité du troisième jour. Marie! Oh, alléluia! Marie! Et là, elle va répondre à cet appel. Rabouni. Ce qui veut dire maître ou mon maître. Il appelait d'abord femme. Mais cette fois-ci, il appelle par Marie est en face du ressuscité. Oh, alléluia! Rabouni! Elle ne dit pas Rabbi, parce que Rabouni est beaucoup plus déférent, beaucoup plus solennel, mes amis, que Rabbi. C'est alors que le Seigneur va lui dire, Marie, cesse. On peut aller au verset suivant, s'il vous plaît, très vite. Ne me touche pas, j'ai déjà expliqué ça. Et je suis toujours étonné que certains qui ont prêché ici chez nous reviennent là-dessus. J'ai parlé, s'il vous plaît. Ne soyez pas orgueilleux. J'ai usé mes pantalons à l'UCL pour apprendre le grec. Le verbe utilisé, c'est vrai, c'est le verbe toucher. Mais le temps, c'est l'indicatif présent qui a une valeur durative en grec. Quand il dit « ne me touche pas », en grec, on peut exprimer cette action comme étant une action simplement de toucher une fois. Le grec a cette capacité. Tout comme le grec avec le même verbe « toucher », mais en utilisant le présent, veut dire « ne me touche pas » et « ne continue pas de me toucher ». C'est-à-dire, cesse de me toucher, cesse de t'accrocher à moi. Alléluia. Ce n'est pas toucher, ce qui a conduit certains phallocrates, certains sexistes, à dire, vous voyez, c'est parce que c'était une femme qu'elle ne pouvait pas toucher Jésus, car plus tard à Thomas, qu'est-ce que Jésus dira? Avance, on doit. Et mêlez-la. Jésus serait sexiste? Non. Elle s'accrochait. Elle dit, ne m'empêche pas. Je dois monter vers mon Père. Alléluia. Ce n'est pas simplement, ne me touche pas. Non, de grâce, vous qui prêchez. Voyez-vous? Écoutez ce qu'on dit. Soyez humbles. Voyez-vous? Et allez voir dans d'autres versions, vous verrez qu'ils ont traduit cela par « cesse de me toucher, cesse de t'accrocher à moi, bref, ne me retiens pas. » Alors ne vous croyez pas plus intelligent que les traducteurs de la Bible. Voyez? Louis Segond avait traduit à l'époque, du mot à mot, « ne me touche pas ». Voyez, c'est pourquoi il y a des révisions. On révise parce que la science biblique évolue. Voyez-vous, on étudie les mots et puis à chaque fois on réalise que ces mots sont chargés de nouvelles significations, etc. Donc, Marie ne me retient pas. Oh, alléluia. Pour terminer, Marie a rencontré le ressuscité. Oh, alléluia. Marie a été au-delà de ces éléments périphériques. Elle n'a pas reposé sa foi sur le simple fait que le tombeau était vide. Sur le simple fait que son corps n'a pas été volé, autrement on n'aurait pas assisté à cet ordre dans le tombeau. Mais Marie, voulait absolument voir le ressuscité. Marie l'a vu, Marie se prosternait devant elle, Marie s'est jetée, s'est accrochée à elle, à lui, au point où le Seigneur lui dit, cesse de me retenir. Car je dois partir, alléluia. Mes amis, c'est une chose de s'appuyer sur les éléments périphériques en rapport avec la résurrection, le tombeau vide, mais ça n'est une autre de rencontrer le ressuscité du troisième jour, alléluia. Et Marie, elle a rencontré le ressuscité. Elle a eu une preuve tangible qu'il est vraiment ressuscité. Certes, le tombeau est vide. Certes, son corps n'a pas été volé. Certes, la pierre a été déplacée. Mais au-delà de ces éléments visibles, de ces éléments matériels, il y a le Christ lui-même. Il est vivant. Vous pouvez le rencontrer. Alléluia. Il est parmi nous. Voyez-vous? C'est pourquoi nous voyons la différence entre Pierre et Jean, qui, après avoir fait l'expérience du tombeau vide, sont repartis, se sont enfermés, se sont cachés avec d'autres disciples. Mais elle, elle a rencontré le Seigneur. Cette fois-ci, nous l'avons lu au verset 18, Marie vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le... Avant, elle leur avait dit, le tombeau est... J'ai vu que la pierre était déplacée, on ne sait pas où on a placé son corps. Mais cette fois-ci, elle revient avec une bonne nouvelle. Je l'ai vu, je l'ai touché. Oh, alléluia! Il est vivant. Et comme pour confirmer cette parole, le soir de la même, du même jour, ce dimanche-là, alors qu'ils étaient barricadés, eh bien, le Seigneur est entré au milieu d'eux, à travers le mur. Oh, alléluia! Il leur a dit, que la paix soit avec vous. Et là, ils l'ont vu. Le tombeau vide, c'est vrai. Mais cette fois-ci, nous le voyons. Cette fois-ci, nous venons de le rencontrer. Mes amis, c'est ça la foi qui sauve. Il faut rencontrer le ressuscité. Vous pouvez aller habiter sur le lieu où son corps avait été déposé, mourir et aller tout droit en enfer. Vous pouvez aller passer toute votre vie pour vous battre afin de conserver ce lieu-là, etc. Et puis mourir, aller tout droit. Il vous dira, mais pourquoi vous êtes allé là-bas? Moi, je suis vivant. Comment cherchez-vous le vivant parmi les morts? Voilà le message de Pâques. C'est rencontrer le ressuscité. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes. Or, comme je l'ai annoncé, et comme vous le voyez si bien, nous allons à présent nous préparer à prendre part au repas du Seigneur. Non. Mes notes. Merci. À prendre le repas du Seigneur en ce jour de Pâques, la Sainte Cène, qui est donc un mémorial, qui nous rappelle le prix que Christ a payé. Il est mort à la croix. Et au troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et nous voulons nous préparer, que chacun s'examine, que tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ceux qui ont rencontré un jour le ressuscité du troisième jour, eh bien que ceux-là s'examinent. Si vous vous rendez compte qu'il y a un péché ou quelques péchés dans votre vie, alors que vous êtes avec lui, eh bien confessez vos péchés. Demandez-lui pardon. Croyez qu'à la croix, il a rendu possible le pardon. Et puis ensuite, seulement vous vous lèverez pour prendre le repas du Seigneur. Alors j'invite tous les préposés à aller là où ils doivent aller. Et nous allons prier pendant que, pour gagner du temps. Oh, hallelujah.